Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Fatima Yadani, secrétaire nationale adjointe du Parti Socialiste en charge des fédérations, docteur en virologie. Bonsoir.
Bonsoir Loïc Barrière et bonsoir à vos auditeurs.
Alors Fatima Yadani, le président Macron a décidé d'appliquer à toute la France les mesures de restriction qui étaient en vigueur dans 19 départements, avec une fermeture des écoles pendant un temps limité. Est-ce que le chef de l'État a pris les bonnes décisions?
Alors, je ne sais pas pour l'heure s'il a pris les bonnes décisions, mais je pense que déjà dans la méthode, peut-être qu'il aurait été préférable de choisir une autre méthode. Le débat à l'Assemblée et au Sénat sur les propositions qui ont été faites, sur les différentes mesures qui ont été prononcées par le chef de l'État, sans concertation avec la représentation nationale, et donc je pense que la méthode n'est pas tout à fait la meilleure méthode pour être acceptée par l'ensemble des Françaises et des Français. S'agissant plus particulièrement en fait des mesures qui ont été prises, je crois qu'on a les uns et les autres remarqué qu'il y avait des contaminations de plus en plus importantes au sein des établissements scolaires, et il était logique de trouver justement une solution pour diminuer ces contaminations. Et une des mesures prises, à mon sens, qui est la fermeture des écoles, est quelque chose qui peut avoir des impacts importants et dans le bon sens. Encore faut-il les accompagner. Je crois qu'il y a un certain nombre de parents qui n'ont pas d'autres moyens que de faire garder leurs enfants notamment. Et tout ça, pour l'instant, n'a pas encore été pris en charge et on ne connaît pas les modalités pour permettre à ces parents d'assurer la garde de leurs enfants. Donc je pense que fermer les écoles, c'est un sujet. Je pense que c'était la bonne mesure à prendre, et d'autant que profiter des prochaines vacances scolaires, encore faut-il accompagner ces mesures pour les parents.
Oui, car la difficulté, c'est faire du télétravail avec de jeunes enfants dans une maison qui peut être éventuellement petite, un appartement trop petit.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est la raison. Donc hier, le président de la République a incité fortement et a indiqué que le télétravail devait être systématique, mais il faut justement accompagner les parents de ces enfants pour leur permettre de télétravailler. Et pour l'instant, ce n'est pas encore le cas.
Le président Macron a eu raison de ne pas imposer un confinement dur puisque les Français n'auront pas besoin d'attestation pour sortir de chez eux dans un rayon de 10 km.
Je crois qu'il fallait prendre, en fait, on est sur une ligne de crête notamment, il ne faut pas oublier également la santé mentale de nos concitoyens, et donc enfermer les gens juste parce que il faut les enfermer, à mon sens, n'est pas le bon moyen. Donc permettre aux uns et aux autres de sortir dans un rayon de 10 km est, à mon sens, une bonne mesure, et donc il n'y a pas nécessité d'avoir des attestations. Je veux dire, les attestations qu'on a vécues pendant les deux derniers confinements étaient un peu lunaires, comme diraient certains. On n'a pas besoin de faire une attestation pour aller faire des courses à proximité. Donc moi, je pense que ça, c'est une bonne mesure de nous décharger de ces attestations. Oui.
Fatima Yadani, vous l'avez dit tout à l'heure, la plupart des partis de l'opposition ont boycotté le vote sur la stratégie sanitaire du gouvernement. Sur la forme, le Parti Socialiste a regretté une prise de décision solitaire dans l'opacité. Emmanuel Macron aurait dû consulter les parlementaires avant et non après ses annonces de mercredi soir. Il aurait dû imiter, par exemple, Angela Merkel, qui consulte les présidents de région.
Je pense que pendant toute cette phase, et notamment depuis un an, on a affaire à un homme solitaire qui prend des décisions seul, et que peut-être il aurait mieux valu qu'il y ait beaucoup plus de concertation, et notamment le Conseil de défense se transformer en un conseil sanitaire, par exemple, où on consulte non seulement les présidents des partis politiques, les présidents des groupes parlementaires, les présidents aussi de ces parlements, que ce soit l'Assemblée nationale et le Sénat, et de permettre de trouver un consensus entre tout le monde et que les décisions soient acceptées par l'ensemble de nos concitoyens. Je crois que ce qu'il faut comprendre et ce que nous amène avec humilité à se questionner cette crise sanitaire, c'est que nous sommes tous dans le même bateau. Donc, il faut essayer de prendre toutes les énergies et qui sont présentes pour essayer de s'en sortir collectivement. Et je crois qu'il est important de faire beaucoup de concertations avec les uns et les autres, aussi bien évidemment avec les politiques, comme vous l'avez mentionné très justement, mais également avec tous les professionnels, que ce soit les professionnels de santé, que ce soit les professionnels des différents secteurs d'activité de notre pays, parce qu'on ne peut pas attendre les coupes près du mercredi soir ou du jeudi soir pour se dire tiens dans 24 heures je dois fermer et éviter ainsi de s'organiser au dernier moment.
Fatima Yadani, on va s'arrêter un instant sur la stratégie vaccinale de la France, puisque vous avez publié il y a quelques jours un texte sur cette question avec l'ancien député Daniel Goldberg. Votre tribune dans Libération s'intitule « La justice sanitaire impose une stratégie vaccinale territorialisée » et vous donnez des chiffres. Au 24 mars par exemple, dans les Landes, le Finistère, les Pyrénées-Atlantiques, la Creuse, le taux d'incidence départementale était inférieur à 100. Par contre, il était au même moment de 777 en Seine-Saint-Denis, 775 dans le Val-d'Oise. En clair, il faudrait vacciner en priorité les territoires où le taux d'incidence est le plus élevé, comme la Seine-Saint-Denis.
Oui. En fait, la stratégie vaccinale qui a été adoptée en France, qui avait été énoncée par le président de la République notamment, c'était d'abord de vacciner les personnes qui étaient résidentes en EHPAD. Pourquoi ? Parce que il avait été constaté que ces personnes-là étaient celles qui étaient le plus, qui se retrouvaient le plus dans les services hospitaliers et plus singulièrement dans les services de réanimation. Et donc c'était la première phase justement pour diminuer cette pression sur les services hospitaliers. Maintenant, on se rend compte que de plus en plus, et notamment dans les départements que vous venez de citer, il y avait des populations beaucoup plus jeunes. On l'a rappelé dans cette tribune, en Seine-Saint-Denis, par exemple, un quart des patients ont moins de 50 ans. Donc cette population-là, pour l'instant, elle n'est pas éligible à la vaccination. Donc c'est tout le sujet de notre tribune, c'est de dire qu'il faut spécifiquement intervenir et vacciner dans tous ces territoires qui sont le plus impactés par cette crise sanitaire et plus spécifiquement ces départements de l'Île-de-France où les taux d'incidence frôlent, je crois qu'aujourd'hui ils sont à plus de 800 dans les départements qui ont été cités. Donc c'est la raison pour laquelle nous, notre message, notamment aux instances dirigeantes de ce pays, c'est de dire il faut prioriser les doses vers ces départements-là et justement vacciner massivement ces départements. Vacciner non seulement les femmes et les hommes qui sont le plus vulnérables et également tous les professionnels qui sont exposés, donc les professionnels des services publics, les enseignants, les policiers, les pompiers, toutes les personnes qui sont ce qu'on a appelé les premiers de corvée et dont l'action et l'activité est essentielle dans notre pays, et c'est vers tout cela que doit être priorisée la vaccination.
Les habitants de ces territoires, comme la Seine-Saint-Denis, le Val-d'Oise, la Seine-et-Marne, le Pas-de-Calais, subissent une forme de discrimination sur la question des vaccins ?
Alors, je ne sais pas si on peut appeler ça une discrimination, mais à partir du moment où en fait les doses de vaccins sont distribuées en fonction des différentes tranches d'âge, si on prend par exemple un département comme la Seine-Saint-Denis où la population est une population relativement jeune, vous comprenez que les doses ne vont pas prioritairement, si on n'utilise que le facteur âge, vers cette population-là. Donc c'est la raison pour laquelle nous disons qu'il n'y a pas que l'âge qui doit entrer en compte dans la priorisation des doses de vaccins, mais plutôt les activités et la vulnérabilité des personnes.
Fatima Yadani, vous dites dans cette tribune que les pouvoirs publics doivent aller vers les plus éloignés de l'information et de l'usage numérique. On a vu que des Parisiens allaient se faire vacciner en Seine-Saint-Denis ou en grande banlieue via Doctolib parce qu'ils maîtrisaient bien les outils numériques et les créneaux n'étaient plus disponibles après pour les habitants de ces quartiers. Donc il faut aller vers ce public qui n'a pas accès à l'information.
Tout à fait. Et je crois que c'est indispensable, et notamment pour la réussite de la vaccination sur ces territoires, il faut aller vers les populations qui n'ont pas accès ou qui n'ont pas l'habitude de l'usage de ces outils numériques pour se faire vacciner. Moi, j'ai encore rencontré des personnes qui me disent « Mais comment on fait pour la vaccination ?» Donc, par exemple, demander, c'est le cas dans certains territoires, aux médecins traitants de faire des listes de leurs patients qui pourraient avoir prioritairement accès au vaccin. C'est aussi les collectivités qui doivent vérifier, notamment via leur centre d'action sociale, les personnes qui sont le plus éligibles et qui seraient dans ces critères-là pour leur permettre un accès à la vaccination. Les réseaux associatifs, en fait, il faut utiliser tous les réseaux possibles pour permettre à tous ceux qui sont éloignés de l'information public et de l'usage des outils numériques, d'avoir un accès à la vaccination.
L'ouverture d'un vaccinodrome au Stade de France à partir de mardi prochain, c'est une bonne nouvelle ?
C'est une excellente nouvelle parce que il va y avoir, il semblerait que la vaccination elle puisse concerner 10 000 personnes par jour. C'est une bonne nouvelle à condition que ce vaccinodrome soit alimenté par les doses suffisantes qui permettent d'arriver à ce chiffre-là au quotidien. Donc on attend de voir s'il va être justement alimenté par ces doses vaccinales, puisqu'on sait que depuis le début, il a toujours manqué de vaccins. Donc l'étape limitante est la fourniture de ces doses vaccinales pour permettre la vaccination de ces 10 000 personnes par jour.
Comment expliquez-vous qu'il n'y ait pas plus de doses de vaccins en France par rapport à d'autres pays? Est-ce que vous avez une explication à cette pénurie de vaccins?
Alors, il y a différentes explications. La première, et je suis une pro-européenne, c'est peut-être le fait d'avoir voulu acheter ces vaccins au prix le plus bas et de négocier en groupe un prix le plus bas, alors que je pense que c'était pas tout à fait la meilleure des stratégies. L'idée d'aller négocier en collectif était, à mon sens, la bonne idée. Ensuite, peut-être qu'il aurait fallu mieux négocier. Ça, c'est le premier sujet. Le deuxième, il est que les laboratoires qui ont conçu ces différents vaccins ne permettent pas le libre accès justement des brevets. Et pour qu'on puisse produire plus massivement ces vaccins, il faudrait permettre justement de libérer ces brevets et ainsi tous les pays qui le souhaiteraient de pouvoir produire en qualité et en quantité ces vaccins-là. Et donc, je pense que c'est un problème de licence de vaccin. Et justement, il faut que ce vaccin devienne un bien mondial, parce qu'il faut, ce qu'il faut savoir, c'est que lorsque nous serons, nous, dans notre pays vaccinés, si d'autres pays dans le monde ne sont pas vaccinés, on peut avoir une résurgence de l'épidémie. Et donc, il est essentiel que l'ensemble du monde soit vacciné pour justement éradiquer cette maladie et éviter justement qu'on puisse avoir l'apparition de variants aux différents coins du monde. Donc, c'est la raison pour laquelle il est essentiel que ce vaccin devienne un bien mondial et permettre la planète de pouvoir se faire vacciner.
Vous avez critiqué la gestion trop solitaire du président Macron. Sur la gestion des vaccins, vous considérez que la gestion de cette vaccination est trop centralisée? Est-ce qu'il faudrait donner plus de marge de manœuvre au territoire?
Depuis le début, cette stratégie vaccinale, comme l'ensemble des choses, n'ont pas été concertées. C'est-à-dire, on a bien vu au mois de janvier, c'est quand même les collectivités, les différents exécutifs, que ce soit dans les mairies, dans les régions, qui ont mis en place justement des centres de vaccination. bien sûr avec les services de l'État que sont les ARS, mais encore une fois, ça a toujours été les élus qui ont permis la mise en place d'un certain nombre de centres de vaccination dans leur collectivité. Encore une fois, heureusement que les élus territoriaux étaient, les élus locaux ont pris à bras le corps cette vaccination, parce que sinon, on était encore dans le flou pendant tout le mois de janvier. Il n'y a pas eu un schéma directeur de vaccination. Si on prend le cas, par exemple, des États-Unis, où vous voyez des gens dans tous les vaccinodromes, la mise en place de vaccinodromes qui a permis justement une vaccination massive, en France, chacun s'est débrouillé dans son petit coin. Alors que s'il y avait eu un vrai schéma de vaccination en indiquant qu'il y a d'une part les vaccinodromes qui permettent de vacciner massivement, d'autre part, il y a des centres de vaccination qui sont au plus près des habitants, il y a aussi des moyens qui peuvent être développés par les élus locaux pour permettre à leurs habitants d'avoir accès peut-être à des vaccinodromes, notamment en utilisant des moyens de transport et leur permettre l'accès plus facile à ces vaccinodromes. Il y a un ensemble de choses qui auraient pu être réfléchies de manière collective et d'avoir de meilleurs résultats sur la vaccination qui n'ont pas eu lieu. Donc chacun se débrouille tout seul dans son petit coin. Et encore une fois, c'est vraiment dommage parce qu'on arrive à la situation qu'on connaît tous malheureusement. Et juste pour reprendre quelque chose, le président de la République a annoncé un semi-confinement. À partir du moment où vous arrêtez l'école aux enfants, il y a quand même moins d'interactions les uns avec les autres. On ne peut pas avoir ce type de mesures sans pour autant accélérer sur la vaccination. On ne peut pas dire aux Français, on va encore restreindre vos libertés, on va encore vous restreindre de vous voyager, d'avoir des interactions sociales avec différentes personnes de vos familles, avec vos cercles amicaux, et en même temps ne pas accélérer sur la vaccination et la proposer à l'ensemble des Françaises et des Français.
Le président Macron pourrait profiter justement de la fermeture des écoles pour vacciner massivement les enseignants pour préparer leur rentrée au mois de mai ?
C'est ce qu'il faudrait faire. À mon sens, les enseignants, comme je l'ai dit tout à l'heure, tous les professionnels qui ont une mission de service public, qui sont exposés de par leur activité, doivent être prioritaires dans la vaccination. Et bien évidemment, les enseignants font partie, à mon sens, de ce public prioritaire.
Le président Macron a évoqué très rapidement les étudiants. La députée du Nord, Valérie Petit, propose que l'on vaccine aussi en priorité les 18-25 ans dès que possible, sans attendre le mois de juin, ceci pour garantir que les étudiants puissent assister à leurs cours en présentiel à la rentrée de septembre. Les étudiants aussi devraient être un public prioritaire en matière de vaccins ?
Moi, je pense honnêtement que tout le monde devrait être un public prioritaire et qu'il nous faut faire l'effort d'obtenir des doses pour l'ensemble des Françaises et des Français. S'agissant plus spécifiquement des étudiants, je crois qu'ils ont payé un lourd tribut depuis le mois de mars dernier, non seulement sur le fait qu'ils n'ont plus accès à leurs cours, sur le fait aussi qu'ils n'ont plus pour certains de petits boulots, qu'ils vivent une précarité vraiment très accentuée pendant cette période. Et bien évidemment, s'il est possible de les vacciner, je pense que ça peut être important aussi d'essayer de leur permettre de retrouver une vie à peu près normale.
Dernière question, Fatima Yadeni, vous êtes docteur en virologie. Est-ce qu'une fois cette crise sanitaire sur le Covid-19 terminée, il faudra aussi se préparer à d'autres crises du même type ? Est-ce qu'on va vivre avec la crainte de nouveaux virus chaque année, chaque 5 ans ?
Alors, je pense que oui, malheureusement, il y a différentes études qui l'indiquent et c'est la raison pour laquelle il faut que nous, on se mette dans des programmes de prévention, justement, d'abord, un, pour éviter ces crises sanitaires. On a bien vu que pour celle-ci, c'est le règne animal qui entre notamment en jeu dans cette crise sanitaire. Il faut travailler sur ces sujets-là, il faut pouvoir justement investir sur ces sujets-là pour éviter que ça puisse se reproduire, d'une part. D'autre part, il faut également réfléchir à nous, notre organisation de la santé et notamment de nos services hospitaliers. Et pour finir, il faut aussi réfléchir à la recherche en France. On s'est rendu compte quand même qu'on est l'un des seuls pays où il n'a pas été proposé de vaccin, puisqu'on a bien vu que il n'y a pas de vaccin sorti de la recherche française, et donc il faut vraiment réfléchir à comment on remet tout ça en rang, essayer d'avoir un retour d'expérience de cette crise sanitaire pour qu'elle puisse être gérée autrement si on devait en avoir une dans les 10 prochaines années.
Merci Fatima Yadani. Je rappelle que vous êtes secrétaire nationale adjointe du Parti Socialiste en charge des fédérations. Vous êtes également docteur en virologie. Bonsoir.
Merci beaucoup.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.